From the conference center at Temple Square.
Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé d'étudiants de l'Université BYU Idaho. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la conférence dans les centres de pieux dans différentes parties du monde où la conférence est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur d'étudiants de l'Université Brigham Young Idaho sous la direction d'Eda Ashby et de Rebecca Lord avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Sing Praise to Him ». Hugo Martinez, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Of power. Notre cher Père Céleste, nous t'implorons avec beaucoup d'humilité pour que nous puissions exprimer notre gratitude, notre reconnaissance pour les paroles qui ont été prononcées depuis le début de cette conférence, afin que ces dirigeants puissent nous guider et que nous puissions recevoir les bénédictions avec ce même esprit qui a inspiré tes serviteurs de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour nos familles, pour le rétablissement, pour la prêtrise et pour l'Église, pour le pouvoir et l'autorité qui sont de nouveau sur la terre, pour rassembler Israël, pour aussi nous guider jusqu'au temple. Nous sommes reconnaissants de l'occasion de nous préparer davantage pour le jour de sabbat de demain, afin que nous puissions, en tant que famille, nous rassembler et nous réjouir ensemble pour de toutes les bénédictions qui nous viennent de ton évangile, que nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin et que nous le fassions en harmonie avec le don de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, va maintenant présenter les officiers généraux et les 70 interrégions de l'Église pour un vote de soutien. Après quoi, Kevin Jorgensen, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport annuel. Il sera suivi de Brooke Hales, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2015. Frères et sœurs, le président Monson m'a invité à présenter les noms des officiers généraux et des 70 d'interrégions pour un vote de soutien. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Benyon Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uchtdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Le vote a été noté. Il nous est proposé de soutenir Russell M. Nelson comme président du Collège des Douze Apôtres et les membres suivants du dit collège. Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christopherson, Neil Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson et Dale Renland, que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Le vote a été noté. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Le vote a été noté. Il nous est proposé de relever, à dater du 1er mai 2016, les 70 d'interrégions suivants.
Manuel M. Augustin, Kent J. Allen, Stephen B. Allen, W. Mark Bassett, Patrick M. Batuya, Mark A. Bragg, Marcelo F. Chappi, Eleazar S. Colorado, Valerie V. Corden, Joaquin E. Costa, Jeffrey D. Cummings, Massimo DeFeo, Donald D. Deschler, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominiquez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Herman D. Ferreira, Moroni Gaona, Jack N. Gerard, Ricardo B. Jimenez, Douglas F. Hyam, Brent J. Hillier, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Madi T. Utenos, Jung Ho Kim, Alfred Kiyungu, Dane O. Levitt, Remigio E. Maim Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Manz, Ramon C. Nobleza, S. Mark Palmer, Fujar Piano, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Gary B. Sabin, Evan R. Schmutz, D. Zachary Smith, Lynn L. Summerhays, Venislao H. Swick, Greg B. Terry, Ernesto R. Torres, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, J. Romeo Villarreal, Terry L. Wade. Those who wish to join us in expressing appreciation for their excellent service.
Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever avec toute notre reconnaissance Sir Rosemary Wixom, Cheryl Esplin et Mary Durham comme présidence générale de la primaire. Nous relevons également les membres du bureau général de la primaire. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements à ces sœurs pour leur remarquable service et leur dévouement le fassent. Il nous est proposé de soutenir en tant que nouveau 70 autorité générale.
W. Mark Bassett, Mark A. Bragg, Weatherford T. Clayton, Valerie B. Cordon, Joaquin E. Costa, Massimo De Feo, Peter F. Merce, K. Brett Natris, S. Mark Palmer, Gary B. Sabin, and Evan A. Schmutz. All in favor?
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 d'interrégion.
P. David Agassani, Kilmer A. Aguero, René R. Alba, Victorino A. Babida, Stephen R. Bangerter, Richard Bakiran, Dong Chol B., Michael V. Beheshti, Mathieu Benassar, Huberman Bien-Aimé, Kevin E. Calderwood, Louis J. Camay, Matthew L. Carpenter, Douglas B. Carter, Aroldo B. Cavalcanti, Louis Claudio Caveri, Ulysses Chavez, Brent J. Christensen, Douglas L. Danz, Mark C. Davis, Alessandro Dino Giaggi, J. Scott Dorius, M. Dirk Triskel, Antonio F. Faundes, Jose A. Fernandez, Matthias D. Fernandez, Candido Fortuna, Bruce E. Gent, Michael A. Gillenwater, Daniel G. Hamilton, Matthias Held, Tom Adler Herland, Raymond S. Hyman, B. Christoph Cavaya, Todd S. Larkin, Pedro X. Lareal, Juan J. Levrino, Felix A. Martinez, Kevin K. Miskin, Mark L. Pace, Ryan V. Pagaduan, A. Moroni Perez, Carlos E. Perotti, Mark B. Pettaroo, Alan T. Phillips, Thomas T. Priday, Brian L. Rawson, Renee Romay, Blake M. Rooney, Luis G. Ruiz, Maximo Saavedra, Pedro A. Sanhueza, Eric J. Schmutz, Mince Benjamin Tai, Heber D. Teixeira, Maximo C. Torres, Jesus Velez, Carlos Villarreal, Paul H. Watkins, C. Dale Willis Jr., William B. Wan, Luis G. Zapata. All in favor?
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il est proposé que nous soutenions Joy Jones comme présidente générale de la primaire, avec comme première conseillère Jean Bingham et comme deuxième conseillère Bonnie Cordon. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégion et président général d'auxiliaire actuel. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Frère Monson, le vote a été noté. Nous invitons les frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi, de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. Nous invitons toutes les nouvelles autorités générales et la nouvelle présidence générale de la primaire à prendre place sur l'estrade. Ils doivent venir de quelque part. Ah, les voilà. Président Monson dit toujours « c'est une longue marche ». Merci, frères et sœurs. Comme annoncé, Kevin Jorgensen lira le rapport d'appurement de l'Église. Il sera suivi par Brooke Hales, qui lira le rapport statistique de l'Église pour 2015.
À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence, du collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. Le département d'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et est indépendant de tous les autres départements de l'Église, a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance acceptable concernant les contributions reçues et les dépenses faites et de protéger les biens de l'Église. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que, dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2015 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les habitudes enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en cas de besoin. Présenté respectueusement, Département d'appurement de l'Église, Kevin R. Jorgensen, Directeur général. La première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la croissance et la situation de l'Église au 31 décembre 2015. Le nombre total de pieux s'élevait à 3174, avec 418 missions, 558 districts et 30 016 paroisses et branches. Le nombre total des membres est de 15 634 199. En 2015, le nombre de nouveaux enfants inscrits dans l'Église était de 114 550 et 257 402 convertis baptisés pendant l'année. Au 31 décembre, il y avait 74 79 000 missionnaires à plein temps et 31 779 missionnaires des services de l'Église dans le monde. Cinq temples ont été consacrés en 2015, le temple de Cordoba en Argentine, de Payson en Utah, de Trujillo au Pérou, d'Indianapolis dans l'Indiana et de Tijuana au Mexique. Deux temples ont été reconsacrés en 2015, le temple de Mexico et le temple de Montréal. À la fin de l'année, le nombre total de temples en service était de 149.
Brothers and sisters, President Monson asked me to mention that since a few opposing.
Le président Monson m'a demandé que, puisqu'il y a eu quelques avis contraires, nous invitons les personnes qui les ont faits de prendre contact avec leur présidence de Pieux. Merci.
The choir will now favor us with.
Le chœur interprétera maintenant « Israël, ton Dieu t'appelle ». Après le chant, nous entendrons Ronald Rasban et Neil Andersen du Collège des 12 apôtres.
Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux autorités générales et aux 70 interrégions nouvellement appelées, ainsi qu'à la nouvelle présidence générale de la primaire. Avec la plus grande gratitude, nous remercions les personnes qui ont été relevées. Frères et sœurs, nous vous aimons, chacun d'entre vous. Mes chers frères et sœurs, nous venons de participer à l'une des plus belles expériences lorsque nous avons levé la main pour soutenir les prophètes, voyants et révélateurs, ainsi que les autres dirigeants et officiers généraux que Dieu a appelés en ce moment même. Je n'ai jamais pris à la légère l'occasion qui nous est donnée de soutenir les serviteurs du Seigneur et d'être guidé par eux. Et n'étant que depuis quelques mois membre du Collège des 12 apôtres, je suis profondément touché par votre vote et par votre confiance. Je suis touché que vous soyez disposé à me soutenir et à soutenir ces grands dirigeants. Peu après mon appel en octobre dernier, je me suis rendu au Pakistan pour une tâche qui m'avait été confiée et j'y ai rencontré les saints remarquables et dévoués de ce pays. Leur nombre est petit, mais leur esprit est grand. Peu après mon retour, j'ai reçu le message suivant de Shakil Arshad, membre cher à mon cœur, dont j'ai fait la connaissance lors de mon séjour. Merci, frère Rasband, d'être venu. Je tiens à vous dire que nous, les membres, nous vous soutenons et nous vous aimons. Nous sommes très chanceux que vous soyez venu vous adresser à nous. C'était tout simplement une journée exceptionnelle dans la vie de ma famille que celle où un apôtre nous a rendu visite. La rencontre avec des saints tels que frère Arshad a été une expérience bouleversante et émouvante, et reprenant ces mots, une journée exceptionnelle pour moi aussi. En janvier, des dirigeants de l'Église ont participé à une émission face à face avec des jeunes du monde entier, leurs dirigeants et leurs parents. L'émission était diffusée en direct via l'Internet dans 146 pays. Dans certains endroits, ils étaient réunis en de vastes assemblées dans des églises. Dans d'autres, ils étaient seuls dans leur foyer. Au total, des centaines de milliers de jeunes y ont assisté. Connectés avec notre large auditoire, Bonnie Oscarson, présidente générale des jeunes filles, Stephen Owen, président général des jeunes gens, et moi-même, aidés de jeunes animateurs, de musiciens et d'autres, avons répondu à leurs questions. Notre objectif était de leur présenter le thème des jeunes pour 2016, « Marcher résolument, avec constance dans le Christ », tiré de 2 Néphis, chapitre 31, verset 20, qui dit « C'est pourquoi vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, ou faisant un festin de la parole du Christ, et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. » En lisant de nombreuses centaines de questions de nos jeunes, qu'avons-nous appris? Nous avons appris que nos jeunes aiment le Seigneur, soutiennent leurs dirigeants et désirent avoir des réponses à leurs questions. Les questions indiquent le désir d'apprendre, de compléter les vérités déjà en place dans notre témoignage, d'être mieux préparé à marcher résolument avec constance dans le Christ. Le rétablissement de l'Évangile a commencé grâce à un jeune, Joseph Smith, qui a posé une question. De nombreux enseignements du Sauveur, pendant son ministère, ont débuté par une question. Souvenez-vous de celle qu'il a posée à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?» Et la réponse de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous devons nous aider les uns les autres à trouver les réponses de notre Père Céleste par l'inspiration de l'Esprit. Lors de cette émission, j'ai dit aux jeunes, « Les dirigeants de cette Église n'ignorent pas vos problèmes et vos préoccupations. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Nous nous réunissons souvent avec des jeunes dans le monde entier et nous prions pour vous. Nous parlons de vous dans les lieux les plus sacrés et nous vous aimons. » Je vais vous faire part de l'un des très nombreux commentaires que nous avons reçus suite à cette émission. Lisa, de Grand Prairie, en Alberta, au Canada, a écrit « Cette émission face à face était merveilleuse. quelle force pour mon témoignage et mes convictions par rapport à l'Évangile. C'est une telle bénédiction d'avoir des dirigeants inspirés qui ont été appelés à remplir tant d'appels différents. Liz, de Pleasant Grove, en Utah, a commenté une publication précédente. « Je suis reconnaissante d'avoir la foi et la possibilité de soutenir un prophète de Dieu et les hommes et les femmes qui servent à ses côtés. » Nous avons soutenu aujourd'hui des dirigeants qui ont, par inspiration divine, été appelés à nous instruire et à nous guider et qui nous avertissent des dangers qui nous guettent chaque jour. Du respect désinvolte du jour de sabbat, aux menaces qui pèsent sur la famille, aux attaques contre la liberté religieuse et même aux contestations au sujet de révélations modernes. Frères et sœurs, sommes-nous attentifs à leurs recommandations? De nombreuses fois en conférence, lors de réunions de Sainte-Seine et à la primaire, nous avons chanté des paroles touchantes « Conduis-moi et marche avec moi ». Quel sens donnez-vous à ces paroles? Qui vous vient à l'esprit lorsque vous y pensez? Avez-vous ressenti l'influence de dirigeants justes, ces disciples de Jésus-Christ, qui dans le passé et aujourd'hui encore, continuent de toucher votre vie, qui marchent avec vous sur le chemin du Seigneur? Ils sont peut-être à portée de main, chez vous, dans votre assemblée locale, ou peut-être qu'ils parlent en chair lors des conférences générales. Ces disciples ont en commun avec nous la bénédiction d'avoir un témoignage du Seigneur Jésus-Christ, le chef de cette Église, le capitaine de notre âme, qui a promis « Prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés. » Je me souviens de l'histoire que le président Monson a racontée lorsqu'il a été invité chez son président de pieu pour préparer son avancement à la prêtrise de Melchisédek. Quelle bénédiction pour ce président de pieu qui ne savait pas à l'époque qu'il instruisait un jeune détenteur de la prêtrise d'Aaron qui deviendrait un jour le prophète de Dieu. J'ai eu mes propres moments d'apprentissage grâce à notre cher prophète, le président Monson. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit ou dans mon cœur qu'il est le prophète du Seigneur sur la terre. J'ai été l'humble réceptacle de révélations qu'il a reçues et en fonction desquelles il a agi. Il nous a enseigné de nous tourner vers les uns vers les autres, de nous protéger les uns les autres et de nous secourir les uns les autres. C'est ce que l'on enseignait aux autres mormons. Les personnes qui désiraient être appelées son peuple étaient disposées à porter les fardeaux les uns des autres et à être les témoins de Dieu. Je suis témoin aujourd'hui de Dieu le Père éternel et de son Fils Jésus-Christ. Je sais que notre Sauveur vit et nous aime et guide ses serviteurs, vous et moi, pour accomplir ses grands desseins sur cette terre. Lorsque nous marchons résolument, choisissant de suivre les directives et de prêter attention aux avertissements de nos dirigeants, nous choisissons de suivre le Seigneur tandis que le monde prend une autre direction. Nous choisissons de tenir fermement la barre de fer, d'être des saints des derniers jours, d'être en mission pour le Seigneur et d'être remplis d'une joie extrêmement grande. Soutenez-vous les dirigeants de l'Église afin de diffuser la lumière du Christ dans un monde qui s'assombrit? Nos rapports avec les dirigeants sont si importants. Quel que soit leur âge, qu'ils soient près ou loin, ou quel que soit le moment où ils ont touché votre vie, leur influence me rappelle les paroles du poète américain Edwin Markham, qui a dit « Il existe une destinée qui fait de nous des frères. Nous ne faisons pas notre chemin seuls. Tout ce que nous envoyons dans la vie d'autrui revient dans notre propre vie. » Shakil Arshad, mon ami au Pakistan, m'a soutenu, moi, son frère et son ami. Beaucoup d'entre vous l'ont fait aussi. Lorsque nous tendons la main pour nous élever les uns les autres, nous faisons la preuve de ces paroles d'une grande force. Nous ne faisons pas notre chemin seul. Plus que tout, nous avons besoin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un récit des Écritures m'a toujours touché spirituellement. C'est celui où Jésus-Christ marche sur l'eau à la rencontre de ses disciples qui navigue sur la mer de Galilée. Ce sont des dirigeants, nouvellement appelés, comme beaucoup d'entre nous sur l'estrade aujourd'hui. L'histoire est rapportée dans Matthieu. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre entendit ce merveilleux appel d'encouragement du Seigneur. Et Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Plutôt hardi, Pierre était pêcheur. Il connaissait les dangers de la mer. Cependant, il s'était engagé à suivre Jésus, de nuit comme de jour, en bateau ou sur la terre ferme. J'imagine que Pierre a bondi hors de la barque sans attendre une deuxième invitation et a commencé à marcher sur l'eau. En effet, les Écritures disent qu'il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et quand la force du vent augmenta et que les flots ont tourbillonné autour de lui, Pierre prit peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Quelle grande leçon! Le Seigneur était là pour lui, tout comme il est là pour vous et moi. Il a tendu la main et a tiré Pierre vers lui et l'a mis en sécurité. J'ai tant de fois eu besoin du Sauveur et de sa main secourable. J'ai besoin de lui maintenant, comme jamais auparavant, comme chacun d'entre vous. J'ai été confiant de temps en temps et j'ai bondi par-dessus bord, au sens figuré, en des lieux inconnus, pour me rendre compte que je ne pouvais pas y arriver seul. Comme nous en avons parlé lors du face-à-face, le Seigneur nous tend souvent la main, par l'intermédiaire de notre famille et de nos dirigeants, nous invitant à venir à lui, tout comme il a tendu la main à Pierre pour le sauver. Vous aussi, vous aurez de nombreuses occasions de répondre à l'invitation fréquente d'aller au Christ. N'est-ce pas la raison d'être de cette vie terrestre? L'appel peut être de secourir un membre de votre famille, de faire une mission, de revenir à l'Église, d'aller au Saint-Temple. Et comme nous l'avons entendu de la bouche de nos jeunes lors de l'émission Face à Face, d'aider à répondre à leurs questions. Au moment voulu, chacun de nous entendra l'appel à venir à la maison. Je prie pour que nous tendions la main et prenions celle que le Sauveur nous tend, souvent par l'intermédiaire de ses dirigeants divinement appelés et des membres de notre famille, et que nous prêtions attention à son appel à venir à lui. Je sais que Jésus-Christ vit, je l'aime, et je sais de tout mon cœur qu'il aime chacun d'entre nous. Il est notre grand exemple, et le dirigeant divin de tous les enfants de notre Père. J'en rends ce témoignage solennel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
God loves children. He loves all children.
Dieu aime les enfants. Il aime tous les enfants. Le Sauveur a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Les enfants aujourd'hui se retrouvent dans de nombreuses configurations familiales différentes et complexes. Par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a deux fois plus d'enfants qui vivent avec un seul parent qu'il y a 50 ans. Et de nombreuses familles sont moins unies dans leur amour de Dieu et la volonté de garder ses commandements. Dans ce tumulte spirituel croissant, l'Évangile rétabli continuera de véhiculer la norme, l'idéal, le modèle établi par le Seigneur. Les enfants ont le droit de naître dans les liens du mariage et d'être élevés par un père et une mère qui honorent leurs vœux de mariage, dans la fidélité totale. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer, de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer, à se servir les uns les autres et à observer les commandements de Dieu. Nous complimentons les nombreux bons parents de toutes les religions dans le monde entier qui prennent soin de leurs enfants avec amour. Nous sommes reconnaissants pour les enfants de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours qui sont entourés des soins d'un père et d'une mère convertis au Sauveur, qui sont scellés par l'autorité de la prêtrise et qui apprennent au sein de leur famille à aimer leur Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, je plaide pour les centaines de milliers d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes qui ne viennent pas de ces familles que je qualifierais d'idéales, faute de trouver un meilleur terme. Je ne m'adresse pas seulement aux jeunes qui ont connu la mort, le divorce ou l'affaiblissement de la foi de leurs parents, mais également aux dizaines de milliers de jeunes gens et de jeunes filles dont le monde entier qui embrassent l'Évangile sans un père ou une mère qui entre dans l'Église avec eux. Ces jeunes, saints des derniers jours, y entrent avec une grande foi. Ils espèrent fonder à l'avenir une famille idéale. Avec le temps, ils deviennent une partie importante de notre force missionnaire, de nos jeunes adultes justes et de ceux qui s'agenouillent à un autel pour fonder leur propre famille. Nous continuerons d'enseigner le modèle établi par le Seigneur pour la famille, mais maintenant, avec des millions de membres et une telle diversité parmi les enfants de l'Église, nous devons être encore plus prévenants et attentifs aux situations. La culture et le langage de notre Église sont parfois uniques. Les parents de la primaire ne vont pas cesser de chanter ensemble à tout jamais, mais lorsqu'ils chanteront « Quand papa rentre à la maison, je suis très heureux » ou « Mes parents me montrent la voie », tous ne chanteront pas en pensant à leur famille. Notre amie Betty a raconté ce qui s'était passé à l'église lorsqu'elle avait 10 ans. Notre instructrice faisait une leçon sur le mariage au temple. Elle s'est adressée à moi en particulier. « Betty, tes parents ne sont pas mariés au temple, n'est-ce pas ?» Mon instructrice et le reste de la classe connaissaient la réponse. Elle a continué sa leçon et Betty envisageait le pire. Betty a dit, « J'ai souvent pleuré le soir. Quand j'ai eu un problème cardiaque 2 ans plus tard et que j'ai pensé que j'allais mourir, j'ai paniqué en me disant que je serais seul à tout jamais. » Mon ami Leaf venait seul à l'église. Un jour, à la primaire, on lui a demandé de faire un petit discours. Il n'avait ni papa ni maman à l'église pour se tenir à ses côtés et l'aider s'il oubliait ce qu'il devait dire. Leaf était terrifié. Au lieu de se retrouver dans une situation embarrassante, il n'est pas allé à l'église pendant plusieurs mois. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Ces enfants et ces jeunes ont la bénédiction d'avoir un cœur disposé à croire et des dons spirituels profonds. Leaf m'a dit, « Je savais dans mon fort intérieur que Dieu était mon Père, qu'il me connaissait et qu'il m'aimait. » Notre amie Véronique a dit, « Lorsque j'étudiais les principes de l'Évangile et le livre de Mormon, c'est comme si je me souvenais de ce que je savais déjà, mais que j'avais oublié. » Notre amie Zuleika vient d'Alegrete au Brésil. Bien que sa famille ne soit pas religieuse, à l'âge de 12 ans, Zuleika a commencé à lire la Bible et à se rendre dans des églises locales, cherchant à en apprendre davantage sur Dieu. Avec la permission réticente de ses parents, elle a suivi les leçons des missionnaires, a acquis un témoignage et s'est fait baptiser. Elle m'a dit, pendant la leçon, on m'a montré une photo du temple de Salt Lake City et on m'a parlé des ordonnances de scellement. Dès cet instant, a-t-elle dit, j'ai eu le désir d'entrer un jour dans la maison du Seigneur et de fonder une famille éternelle. Même si la situation sur Terre d'un enfant n'est pas idéale, son ADN spirituel est parfait, du fait de son identité véritable de fils ou de fille de Dieu. Le président Monson a dit, aidez les enfants de Dieu à comprendre ce qui est vrai et important dans cette vie. Aidez-les à acquérir la force de choisir des chemins qui les conduiront en toute sécurité à la vie éternelle. Ouvrons nos bras et notre cœur un peu plus grand. Ces jeunes ont besoin de notre temps et de notre témoignage. Brandon, qui est devenu membre de l'église au Colorado quand il était à l'école secondaire, m'a parlé des personnes qui lui ont tendu la main avant et après son baptême. Il a dit, j'étais chez des familles qui vivaient l'Évangile. Cela m'a montré une façon de vivre qui me semblait que je pourrais avoir dans ma propre famille. Véronique, née en Hollande, allait à l'école secondaire avec notre fille Kristen lorsque nous habitions en Allemagne. Véronique a fait la remarque suivante. Une lumière émanait des élèves qui étaient membres de l'Église. J'ai fini par me rendre compte qu'elle venait de leur foi en Jésus-Christ et de leur respect de ses enseignements. Mon ami Max s'est fait baptiser à l'âge de 8 ans. Son père n'était membre d'aucune église et Max pouvait aller à l'église ou ne pas y aller. Adolescent, après être resté à l'écart pendant plusieurs mois, Max a eu le sentiment qu'il devait retourner à l'église et a décidé un dimanche matin de le faire. Mais sa détermination a flanché quand il a approché de la porte d'entrée et son estomac s'est contracté. Là, debout la porte, se trouvait le nouvel évêque. Max ne le connaissait pas. Il était sûr que celui-ci ne le connaissait pas non plus. Lorsque Max est approché, le visage de l'évêque s'est éclairé. Il a tendu la main en disant, « Max, que je suis content de te voir. » Max a dit, « Quand il a dit cela, j'ai été envahi par une sensation de chaleur et j'ai su que j'avais fait le bon choix. » Connaître le nom de quelqu'un peut changer les choses. Et Jésus commanda qu'on lui amenât les petits-enfants et il les prit un par un et les bénit et pria le Père pour eux. Et lorsqu'il eut fait cela, il pleura. À la demande de leurs parents, de nombreux jeunes qui aiment l'Évangile attendent des années pour se faire baptiser. Les parents d'Émilie ont divorcé lorsqu'elle était enfant, et ce n'est qu'à l'âge de 15 ans qu'elle a eu la permission de se faire baptiser. Notre amie Émilie parle avec enthousiasme d'une dirigeante des jeunes filles qui lui a toujours tendu la main et l'a aidée à renforcer son témoignage. Colter et Preston sont des adolescents qui habitent en Utah. Leurs parents sont divorcés et ils n'ont pas eu la permission de se faire baptiser. Bien qu'ils ne puissent pas distribuer la Sainte Cène, chaque semaine, ils apportent le pain. Et bien qu'ils ne puissent pas entrer dans le temple pour faire des baptêmes avec les jeunes lorsque leur paroisse s'y rend, les deux frères trouvent des noms de leur famille au centre d'histoire familiale à la porte à côté. La plus grande influence qui permet aux jeunes de se sentir intégrés est celle d'autres jeunes justes. Je termine par l'exemple d'un nouvel ami, quelqu'un que nous avons rencontré il y a quelques semaines pendant que nous visitions la mission de Lusaka, Zambie. Frère Joseph Sanguba vient d'Ouganda. Son père est mort lorsqu'il avait 7 ans. À l'âge de 9 ans, sa mère et ses autres parents ne pouvant plus s'occuper de lui, il s'est retrouvé seul. À 12 ans, il a rencontré les missionnaires et s'est fait baptiser. Joseph m'a raconté sa première journée à l'église. Après la réunion de Sainte-Cène, j'ai pensé qu'il était temps de rentrer à la maison, mais les missionnaires m'ont présenté à Joshua Valosimbi, Joshua m'a dit qu'il allait être mon ami et m'a donné un recueil de chants pour les enfants afin que je n'aie pas arrivé à la primaire les mains vides. À la primaire, Joshua a installé une chaise supplémentaire à côté de la sienne. La présidente de la primaire m'a demandé de me mettre devant et a demandé à toute la primaire de me chanter « Je suis enfant de Dieu ». Joseph m'a dit « Cela m'a beaucoup touché ». Le président de branche a amené Joseph chez sa famille, la famille de Pierre Mungoza, et c'est devenu son foyer pendant les 4 années suivantes. 8 ans plus tard, frère Joseph Sangumba a commencé sa mission. À sa grande surprise, son formateur était frère Joshua Walosimbi, le garçon qu'il avait si bien accueilli son premier jour à la primaire. Et son président de mission, c'était le président Leif Erickson, le petit garçon qui n'était plus allé à la primaire parce qu'il était terrifié à l'idée de donner un discours. Dieu aime ses enfants. Lorsque Cathy et moi étions en Afrique, il y a quelques semaines, nous sommes allés à Mundjimayi, en République démocratique du Congo. Du fait que l'église n'était pas assez spacieuse pour les 2000 membres, nous nous sommes réunis à l'extérieur, sous des bâches de plastique soutenues par des piquets de bambou. Lorsque la réunion a commencé, nous pouvions voir des dizaines d'enfants qui nous regardaient, accrochés aux barres de fer de la clôture qui entoure la propriété. Cathy a murmuré doucement, « Neil, penses-tu que tu pourras inviter les enfants à entrer ?» Je me suis adressé au président de district, frère Kalonji, sur l'estrade, et je lui demandais s'il serait d'accord pour que les enfants qui étaient à l'extérieur de la clôture viennent nous rejoindre. À ma grande surprise, à l'invitation du président Kalonji, les enfants sont non seulement venus, mais ils sont venus en courant, peut-être une centaine, certains avec des habits en haillons et pieds nus, mais tous avec un beau sourire et une mine réjouie. J'ai été très ému par cette expérience et j'y ai vu le symbole de la nécessité de tendre la main aux jeunes qui se sentent seuls, abandonnés ou à l'extérieur de la clôture. Pensons à eux. Accueillons-les. Prenons-les dans nos bras. Et faisons tout ce qui est notre pouvoir pour affermir leur amour pour le Sauveur. Jésus a dit, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On a single signal from the conductor.
Au signal du directeur de la musique, l'assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter « Vivons ce bonheur ». Après ce chant, nous entendrons Mervyn Arnold et Jairo Mazagardi des 70. Ils seront suivis de David Bednar du Collège des 12 apôtres. Vous assistez à la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Le Sauveur
comprenait clairement sa mission de sauver les enfants de notre Père Céleste, car il déclara « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » Car ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jasmine Bennion Arnold. Cet ange qui était ma mère comprenait clairement son rôle dans le sauvetage des brebis blessées ou perdues de notre Père Céleste, y compris ses propres enfants et petits-enfants. Les grands-parents peuvent jouer un rôle merveilleux dans la vie de leurs petits-enfants. Maman était généralement chargée de rendre visite à des sœurs faibles dans la foi, des non-pratiquantes et des familles partiellement membres. Néanmoins, son troupeau en comprenait plusieurs autres auxquels personne ne l'avait chargé de rendre visite. En général, elle ne faisait pas ses visites qu'une fois par mois. Elle écoutait et prodiguait discrètement ses soins aux malades et les encourageait avec amour. Les derniers mois de sa vie, devant garder la chambre, elle passa des heures à leur écrire des lettres, exprimant son amour, rendant son témoignage et édifiant les personnes qui lui rendaient visite. Quand nous portons secours, Dieu nous donne du pouvoir, des encouragements et des bénédictions. Quand il commanda à Moïse de sauver les enfants d'Israël, Moïse eut peur, comme beaucoup d'entre nous ont peur. Moïse se justifia, disant, « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le Seigneur rassura Moïse, « Qui a fait la bouche de l'homme ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Le Seigneur disait en fait à Moïse, « Tu peux le faire. » Et vous savez, nous le pouvons aussi. Je vais vous indiquer 4 principes qui nous aideront dans nos efforts pour porter secours. Premier principe, nous ne devons pas tarder à porter secours. Alejandro Patania, qui a été 70 d'interrégion, raconte l'histoire de Daniel, son frère cadet, qui partit pêcher en mer avec son équipage. Au bout d'un moment, Daniel reçut l'alerte urgente qu'une grosse tempête approchait rapidement. Daniel et son équipage se dirigèrent immédiatement vers le port. Alors que la tempête s'intensifiait, le moteur d'un bateau de pêche non loin d'eux cessa de fonctionner. L'équipage de Daniel accrocha un câble au bateau en détresse et commença à le remorquer pour le mettre à l'abri. Ils demandèrent de l'aide par radio, sachant que la tempête s'intensifiant, ils avaient besoin d'une aide immédiate. Tandis que leurs êtres chers attendaient avec inquiétude, les représentants des gardes-côtes, de l'association des pêcheurs et de la marine se réunirent pour décider de la meilleure stratégie de sauvetage. Certains voulurent partir aussitôt, mais on leur dit d'attendre un plan d'action. Tandis que les hommes pris dans la tempête continuaient d'implorer de l'aide, les représentants continuèrent leur réunion, essayant de se mettre d'accord sur la bonne méthode et sur un plan. Quand une équipe de sauvetage fut enfin organisée, un dernier appel désespéré arriva. La tempête déchaînée avait rompu le câble entre les deux bateaux et l'équipage de Daniel rebroussait chemin pour voir s'il pouvait sauver les autres pêcheurs. Finalement, les deux bateaux coulèrent et leurs équipages, y compris le frère d'Alejandro Patania, périrent. Alejandro Patania compara cette tragédie à l'admonestation du Seigneur qui dit « Vous n'avez pas fortifié ou ramené celle qui s'égarait ou cherché celle qui était perdue. Je reprendrai mes brebis d'entre vos mains. » Il expliqua que nous devons être organisés en conseil, en collège, en auxiliaire et même individuellement, mais que nous ne devons pas tarder à porter secours. Parfois, il s'écoule de nombreuses semaines pendant lesquelles nous parlons de la manière d'aider des familles ou des personnes qui ont des besoins particuliers. Nous délibérons pour savoir qui leur rendra visite et quelle méthode employer. Pendant ce temps-là, nos frères et sœurs perdus continuent d'avoir besoin de nous, d'appeler et parfois même d'implorer notre aide. Nous ne devons pas tarder. Deuxième principe, nous ne devons jamais abandonner. Le président Monson, qui a lancé un appel retentissant à porter secours, a dit « Il faut rappeler à nos membres qu'il n'est jamais trop tard. pour ce qui est de nos membres non pratiquants, qui pourraient être considérés comme des causes désespérées. Comme beaucoup d'entre vous, des gens auxquels j'ai fait part de l'Évangile se font baptiser ou reviennent à l'Église rapidement, et d'autres, comme mon ami non-membre Tim et sa femme non-pratiquante Charlène, prennent beaucoup plus de temps. Pendant plus de 25 ans, j'ai discuté de l'Évangile avec Tim, et j'ai emmené Tim et Charlène à des visites guidées de temples. D'autres ont aussi apporté leur secours. Mais Tim rejetait toutes les invitations à rencontrer les missionnaires. Un week-end, j'ai été chargé de présider une conférence de pieux. J'avais demandé au président de pieux de jeûner et de prier pour savoir à qui nous devions rendre visite. J'ai reçu un choc lorsqu'il m'a donné le nom de mon ami Tim. Quand l'évêque de Tim, le président de pieux et moi-même avons frappé à la porte, Tim l'a ouverte, m'a dévisagé, a regardé l'évêque et lui a dit « Évêque, je croyais que vous m'aviez dit que vous alliez amener quelqu'un de spécial. » Puis Tim a ajouté en riant « Entre, Merv. » Un miracle a eu lieu ce jour-là. Tim est maintenant baptisé. Lui et Charlène ont été scellés au temple. Nous ne devons jamais abandonner. Troisième principe, comme votre joie sera grande si vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme au Christ. Il y a de nombreuses années, j'ai parlé de la façon dont José de Souza Marquez comprenait ces paroles du Sauveur. Si quelqu'un d'entre vous est fort dans l'esprit, qu'il emmène celui qui est faible, afin qu'il devienne fort aussi. Frère Marquez connaissait le nom de chacune des brebis de son collège de prêtres et savait que Fernando manquait. Il l'a cherché chez lui, puis chez un ami, et même à la plage. Il l'a enfin trouvé en train de surfer. Il n'a pas hésité jusqu'à ce que le bateau coule, comme dans l'histoire de Daniel. Il s'est jeté immédiatement à l'eau pour secourir sa brebis perdue et la ramener avec allégresse. Il s'est ensuite assuré, en s'occupant continuellement de Fernando, qu'il ne quitterait jamais plus le troupeau. Je vais raconter ce qui est arrivé depuis que Fernando a été secouru et vous faire part de la joie qu'a apporté le sauvetage d'une seule brebis perdue. Fernando a épousé sa bien-aimée Maria dans le temple. Ils ont maintenant 5 enfants et 13 petits-enfants qui sont tous pratiquants dans l'église. De nombreux membres de leur parenté et leur famille se sont également joints à l'église. Ensemble, ils ont transmis le nom de milliers de leurs ancêtres pour qu'ils reçoivent les ordonnances du temple et les bénédictions continue à arriver. Fernando est maintenant évêque pour la 3e fois et il continue à porter secours. Il a récemment expliqué « Dans notre paroisse, nous avons 32 jeunes gens de la prêtrise d'Aaron pratiquants, dont 21 ont été secourus dans les 18 derniers mois. Individuellement, en famille, en tant que collège, auxiliaire, classe, instructeur au foyer et instructrice visiteuse, nous pouvons le faire. 4e principe, quel que soit notre âge, nous sommes tous appelés à porter secours. Le président Ehring a déclaré, quel que soit notre âge, nos compétences, notre appel dans l'église ou notre lieu de résidence, nous sommes appelés comme un seul homme à aider le Sauveur à moissonner les âmes jusqu'à son retour. Chaque jour, de plus en plus de nos jeunes adultes seuls et nos membres adultes, répondent à l'appel retentissant du Sauveur de porter secours. Merci de vos efforts. Je vais citer quelques exemples. Amy, qui a 7 ans, a invité son amie Ariana et sa famille à la réunion annuelle de Sainte-Seine de la primaire. Quelques mois plus tard, Ariana et sa famille se sont fait baptiser. Alan, jeune adulte seul, s'est senti poussé à faire connaître des vidéos de l'Église, des messages mormons et des versets des Écritures à tous ses amis en se servant des réseaux sociaux. Sœur Reeves a commencé à parler de l'Église à chaque télévendeur qui appelait. James a invité Shane, un ami non-membre, au baptême de sa fille. Spencer a envoyé à sa sœur non-pratiquante le lien du discours qu'a donné Russell M. Nelson à la conférence et a raconté « Elle a lu le discours et une porte s'est ouverte. » Le Seigneur a fourni tous les outils nécessaires pour que nous portions secours à nos amis non pratiquants et non membres. Nous pouvons tous le faire. Je demande à chacun de vous de répondre à l'appel du Sauveur, de porter secours. Nous pouvons le faire. Je témoigne solennellement que je sais que Jésus est le bon berger, qu'il nous aime et qu'il nous bénit lorsque nous portons secours. Je sais qu'il vit. Je le sais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
L'un de mes bons amis, qui était membre de l'Église, a essayé pendant des années de m'enseigner l'évangile de l'éternité de la famille. Ce n'est qu'après que j'ai assisté aux visites guidées du temple de Sao Paulo en octobre 1978 que la doctrine de l'éternité de la famille a pénétré mon cœur tandis que j'entrais dans la salle de scellement, et j'ai alors prié pendant des jours pour savoir si c'était la vraie Église. Je n'étais pas croyant, mais j'avais été élevé par des parents qui l'étaient, et j'avais constaté ce qu'il y avait de bon dans d'autres religions. À ce stade de ma vie, je pensais que toutes les religions étaient acceptables aux yeux de Dieu. Après ma visite du temple, j'ai prié et cherché à savoir, ayant foi et la confiance certaine, que Dieu me répondrait quelle était son Église sur terre. Après un grand combat spirituel, j'ai finalement reçu une réponse claire. On m'a invité à me faire baptiser, et je l'ai enfin été le soir du 31 octobre 1978, la veille de la consécration du temple de Sao Paulo. J'ai pris conscience que le Seigneur me connaissait et se souciait de moi pour répondre à mes prières. Le lendemain matin, ma femme et moi sommes allés à Sao Paulo pour assister à une session de consécration du temple. Nous étions présents, mais je ne savais pas encore trop que penser de cette occasion exceptionnelle. Le lendemain, nous avons assisté à une conférence d'interrégion. Nous débutions alors notre voyage dans l'Église, et nous sommes faits de bons amis qui nous ont accueillis lors de cette transition de vie. Les cours pour les nouveaux membres dispensés chaque dimanche étaient excellents. Ils nous remplissaient de connaissances, et nous étions impatients que le dimanche suivant arrive vite pour recevoir davantage de cette nourriture spirituelle. Ma femme et moi étions impatients d'entrer dans le temple pour que notre famille soit scellée pour l'éternité. Cela s'est produit 1 an et 7 jours après mon baptême, et cela a été un moment merveilleux. J'ai eu l'impression à l'autel que les éternités étaient divisées entre avant et après le scellement. Résidant légalement sur la côte est des États-Unis pendant quelques années, j'en connaissais les villes qui étaient essentiellement petites. Lorsque je lisais ou entendais parler des événements qui ont précédé la première vision, il était fait mention d'une foule de personnes, et cela n'avait pas de sens pour moi. Des questions ont commencé à naître dans mon esprit. Pourquoi l'Église avait-elle été rétablie aux États-Unis et non au Brésil ou en Italie, le pays de mes ancêtres? Où se trouvaient les foules dont il était question, qui avaient été impliquées dans les mouvements de renouveau spirituel et dans la confusion des religions? Et comment tout cela était-il arrivé dans un endroit si calme et si paisible? J'ai posé la question à beaucoup de gens, mais je n'ai obtenu aucune réponse. J'ai lu tout ce que je pouvais en portugais puis en anglais, mais je n'ai rien trouvé qui puisse apaiser mon cœur. J'ai continué à chercher. En octobre 1984, j'ai assisté à une conférence générale alors que j'étais conseiller dans une présidence de pieux. Juste après, je me suis rendu à Palmyra, impatient de trouver une réponse. Arrivé là, j'ai essayé de comprendre pourquoi le rétablissement avait-il dû se faire là et comment un tel tumulte spirituel avait-il pu se produire. D'où venaient toutes les personnes dont avait parlé Joseph dans son récit? Pourquoi à cet endroit-là? À ce moment, la réponse qui me paraissait la plus raisonnable était que la Constitution américaine garantissait la liberté. Le matin, je me suis rendu à l'immeuble Grandin, où le premier livre de Mormon a été imprimé. Puis je me suis rendu au bosquet sacré où j'ai beaucoup prié. Il n'y avait presque personne dans les rues de cette petite ville de Palmyra. Où se trouvaient les foules dont Joseph avait parlé? L'après-midi, j'ai alors décidé d'aller à la ferme de Peter Whitmer, où j'ai trouvé un homme à la fenêtre d'une maison de rondins. Il avait une lueur intense dans les yeux. Je l'ai salué, puis ai commencé à lui poser toutes ces mêmes questions. Il m'a alors demandé « Vous avez du temps ?» J'ai répondu que oui. Il m'a expliqué que les lacs Erie et Ontario, ainsi que la rivière Hudson plus bas, se trouvaient dans cette région. Au début des années 1800, on avait décidé de creuser un canal ouvert à la navigation qui traverserait la région et s'étendrait sur près de 500 kilomètres pour rejoindre la rivière Hudson. Cela avait été une vaste entreprise pour l'époque, car on n'avait pu compter que sur le travail humain et la force des animaux. Palmyra était un centre pour une partie de ces travaux de construction. On avait besoin de personnes compétentes, des techniciens, leurs familles et leurs amis. Beaucoup de gens avaient commencé à arriver en foule des villes voisines et de lieux plus éloignés pour travailler à ce canal. Cela a été un moment très sacré et spirituel pour moi, parce que j'avais enfin trouvé les foules. Ces gens avaient apporté avec eux leurs coutumes et leurs croyances. Quand cet homme a mentionné leurs croyances, mon esprit s'est éclairé et Dieu a ouvert mes yeux spirituels. À cet instant, j'ai compris comment, par sa main et dans son immense sagesse, Dieu, notre Père, avait préparé un endroit pour y conduire, selon son dessein, le jeune Joseph Smith, et le placer au milieu de la confusion religieuse, car c'était là, dans la colline Cumorah, qu'étaient cachées les plaques du Livre de Mormon. C'était la scène du rétablissement, où la voix du Père allait se faire entendre lors d'une vision glorieuse après près de 2 millénaires de silence, et s'adressant au jeune Joseph Smith parti prier dans le bois sacré, allait prononcer ces mots « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le ». Là, le jeune homme avait vu deux personnages dont l'éclat et la gloire défiaient toute description. Oui, Dieu s'était révélé de nouveau à l'homme. Les ténèbres qui recouvraient la terre ont alors commencé à se dissiper. Les prophéties du rétablissement ont commencé à s'accomplir. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. En quelques brèves années, Joseph a été mené jusqu'aux annales contenant les prophéties, les alliances et les ordonnances laissées par des prophètes anciens, notre cher Livre de Mormon. L'Église de Jésus-Christ n'aurait pas pu être rétablie sans l'Évangile éternel, révélé dans le Livre de Mormon. Un autre testament de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, l'agneau qui prend sur lui les péchés du monde. Le Christ a dit à son peuple à Jérusalem, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je ne me rappelle pas avoir dit au revoir en quittant la ferme des Whitmer. Je ne me souviens que de mes larmes coulant sans retenue sur mon visage. Le soleil se couchait sur un ciel magnifique. Je ressentais une joie immense dans mon cœur et mon âme était apaisée. J'étais rempli de gratitude. Maintenant, je comprenais clairement pourquoi. Une fois de plus, le Seigneur m'avait accordé la connaissance et la lumière. Pendant le voyage du retour, les Écritures ont continué à se déverser dans mon esprit. Les promesses faites à Abraham, le Père des Nations, qu'en sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. Et pour cela, des temples seraient érigés afin que le pouvoir divin soit conféré à nouveau à l'homme sur terre, pour que les familles puissent être unies, non seulement pour le temps, mais pour toute l'éternité. Et il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Si vous qui m'entendez avez des questions dans le cœur, n'abandonnez pas. Je vous exhorte à suivre l'exemple de Joseph Smith, le prophète, lorsqu'il a lu dans Jacques 1:5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, Je rends témoignage que le Seigneur a suscité des prophètes voyants et révélateurs pour diriger son royaume en ces derniers jours, et que selon son plan éternel, les familles sont destinées à vivre ensemble à jamais. Il se soucie de ses enfants et répond à leurs prières. Ce qui est arrivé à Cumorah était une partie importante du rétablissement, car c'est là que Joseph Smith a reçu les plaques qui contenaient le livre de Mormon. Ce livre nous aide à nous rapprocher du Christ plus qu'aucun autre livre sur terre. Du fait de son amour immense, le Fils de Dieu a expié nos péchés et il est le Sauveur du monde. Jésus est le Sauveur du monde, j'en rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
A profound phrase used by King Benjamin in his teachings about the Savior and his atonement.
Dans ses enseignements au sujet du Sauveur et de son expiation, le roi Benjamin utilisait une expression profonde, devenue pour moi un sujet récurrent d'études et de méditation depuis de nombreuses années.
King Benjamin described the importance of knowing the glory of God and tasting of his love.
Lors de son sermon d'adieu spirituellement émouvant, le roi Benjamin décrit l'importance de connaître la gloire de Dieu et de goûter à son amour, de recevoir la rémission de nos péchés, toujours nous souvenir de sa grandeur et prier chaque jour tout en demeurant ferme dans la foi. Il a aussi promis qu'en faisant ces choses, nous nous réjouirons toujours, serons remplis de l'amour de Dieu et conserverons toujours le pardon de nos péchés. Mon message porte sur ce principe de toujours conserver le pardon de nos péchés. La vérité contenue dans cette expression peut fortifier notre foi au Seigneur Jésus-Christ et accroître notre engagement envers lui. Je prie afin que le Saint-Esprit nous inspire et nous édifie, tandis que nous étudions ensemble ces vérités spirituelles essentielles. Dans la condition mortelle, nous faisons l'expérience de la naissance physique et pouvons connaître une renaissance spirituelle. Les prophètes et les apôtres nous exhortent à éveiller à Dieu, naître de nouveau, et devenir en Christ de nouvelles créatures en recevant les bénédictions rendues possibles par l'expiation de Jésus-Christ. Les mérites et la miséricorde et la grâce du Saint-Messie peuvent nous aider à triompher des tendances égocentriques et égoïstes de l'homme naturel et à devenir plus altruistes, bienveillants et saints. On nous exhorte à vivre de manière à pouvoir nous tenir sans tâche devant le Seigneur au dernier jour. Le prophète Joseph Smith a résumé brièvement le rôle essentiel des ordonnances de la prêtrise dans l'évangile de Jésus-Christ. Je cite, « La nouvelle naissance se fait par l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire d'ordonnances. » Fin de citation. Cette déclaration pénétrante souligne à la fois l'importance du Saint-Esprit et celle des ordonnances sacrées dans le processus de renaissance spirituelle. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. C'est un personnage d'esprit et il rend témoignage de toute vérité. Dans les Écritures, le Saint-Esprit est qualifié de consolateur, d'instructeur et de révélateur. De plus, c'est un sanctificateur qui purifie et consume les scories et le mal de l'âme humaine comme par le feu. Les saintes ordonnances sont au centre de l'évangile du Sauveur et du processus qui nous mène à lui et de la quête de la renaissance spirituelle. Ce sont des actes sacrés qui ont un objectif spirituel, une portée éternelle, et sont liés aux lois et aux décrets de Dieu. Toutes les ordonnances salvatrices, ainsi que la Sainte Cène, doivent être approuvées par quelqu'un qui détient les clés de la prêtrise requises. Les ordonnances du salut et de l'exaltation qui sont administrées dans l'Église rétablie du Seigneur sont bien plus que des pratiques rituelles ou symboliques. Elles constituent en réalité les canaux de la prêtrise à travers lesquels les bénédictions et les pouvoirs des cieux peuvent se déverser dans notre vie. Et cette plus grande prêtrise administre l'Évangile et détient la clé des mystères du royaume, oui, la clé de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances. Et sans ses ordonnances et l'autorité de la prêtrise, le pouvoir de la divinité ne se manifeste pas aux hommes dans la chair. Les ordonnances reçues et honorées avec intégrité sont essentielles pour obtenir le pouvoir de la divinité et toutes les bénédictions que l'expiation du Sauveur met à notre disposition. Pour comprendre plus pleinement le processus par lequel nous pouvons obtenir et toujours conserver le pardon de nos péchés, nous devons tout d'abord saisir la relation inséparable entre trois ordonnances sacrées qui donnent accès au pouvoir des cieux. Le baptême par immersion pour la rémission des péchés, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit et la Sainte Cène. Le baptême pour la rémission des péchés est la première ordonnance de l'Évangile de Jésus-Christ et doit être précédé de la foi au Sauveur et d'un repentir sincère. Cette ordonnance est un signe et un commandement que Dieu a fixé pour que ses enfants entrent dans son royaume. Et il est administré par l'autorité de la prêtrise d'Aaron. Dans le processus menant au Sauveur et à la renaissance spirituelle, le baptême procure la purification initiale requise pour délivrer notre âme du péché. L'alliance du baptême comprend trois engagements fondamentaux. Être désireux de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous souvenir toujours de lui. Et trois, garder ses commandements. La bénédiction promise pour le respect de cette alliance est que nous aurons toujours son esprit avec nous. Ainsi, le baptême est la préparation essentielle pour recevoir la bénédiction légitime de la compagnie constante du troisième membre de la divinité. Le baptême par immersion dans l'eau doit, pour être complet, être suivi de la réception du Saint-Esprit. Comme le Sauveur l'a enseigné à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voici trois déclarations de Joseph Smith, le prophète, qui soulignent le lien crucial entre les ordonnances du baptême par immersion pour la rémission des péchés et l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Déclaration numéro 1. Le baptême est une ordonnance sacrée préparatoire à la réception du Saint-Esprit. C'est le canal et la clé par lesquels le Saint-Esprit sera administré. Déclaration numéro 2. Vous pourriez aussi bien baptiser un sac de sable qu'un homme, si ce n'est pas fait en vue de la rémission des péchés et de l'obtention du Saint-Esprit. Le baptême d'eau n'est qu'un demi-baptême et n'est bon à rien sans l'autre moitié, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Déclaration numéro 3. Le baptême d'eau, qui n'est pas accompagné du baptême de feu et du Saint-Esprit, ne sert à rien. Ils sont nécessairement et inséparablement liés. La relation cohérente entre le principe du repentir, les ordonnances du baptême et la réception du don du Saint-Esprit et la bénédiction glorieuse de la rémission des péchés est sans cesse soulignée dans les Écritures. Néphi a déclaré, « Car la porte par laquelle vous devez entrer est le repentir et le baptême d'eau. Et ensuite vient le pardon de vos péchés par le feu et le Saint-Esprit. » Le Sauveur lui-même a proclamé, « Or voici le commandement, repentez-vous toutes les extrémités de la terre et venez à moi, et soyez baptisés en mon nom, afin d'être sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi au dernier jour. » L'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit est une ordonnance administrée par l'autorité de la prêtrise de Melchisédek. Dans le processus nous conduisant au Sauveur et à la renaissance spirituelle, la réception du pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit dans nos vies nous permet d'accéder à la purification continue de notre âme pour en ôter le péché. Cette bénédiction réjouissante est vitale, car rien d'impur ne peut demeurer auprès de Dieu. En tant que membres de l'Église rétablie du Seigneur, nous sommes bénis tant par la purification initiale du péché associée au baptême que par la possibilité de bénéficier d'une purification continue grâce à la compagnie et au pouvoir du Saint-Esprit, troisième membre de la divinité. Réfléchissez à la façon dont un cultivateur dépend de constantes telles que les semailles et les récoltes. La compréhension de la relation entre les semailles et la récolte constitue une source permanente de résolution et influe sur toutes les décisions prises et actions entreprises par le cultivateur durant toutes les saisons de l'année. De la même manière, le lien inséparable qui existe entre les ordonnances du baptême par immersion pour la rémission des péchés et l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit devrait influencer chaque aspect de notre engagement de disciple au cours de toutes les saisons de notre vie. La Sainte Cène est la troisième ordonnance nécessaire pour accéder au pouvoir de la divinité. Afin de nous préserver plus complètement des souillures du monde, il nous est commandé d'aller à la maison de prière et d'offrir nos sacrements au Seigneur en son saint jour. Frères et sœurs, veuillez noter que les emblèmes du corps et du sang du Seigneur, le pain et l'eau, sont tous deux bénis et sanctifiés. Ô Dieu, Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce pain, ou cette eau, pour l'âme de tous ceux qui en prennent ou en boivent. Sanctifier signifie rendre pur ou saint. Les emblèmes de la Sainte Cène sont sanctifiés en souvenir de la pureté du Christ, de notre dépendance totale vis-à-vis de son expiation et de notre responsabilité d'honorer nos ordonnances et nos alliances afin de pouvoir nous tenir sans tâche devant lui au dernier jour. L'ordonnance de la Sainte Cène est une invitation sainte et répétée à nous repentir sincèrement et à nous régénérer spirituellement. L'acte de prendre le pain et l'eau n'offre pas en soi le pardon des péchés. Mais si nous nous préparons consciencieusement et participons à cette sainte ordonnance, le cœur brisé et l'esprit contrit, alors nous avons la promesse que nous aurons toujours l'Esprit du Seigneur avec nous. Et par le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit et sa compagnie constante, nous pouvons toujours conserver le pardon de nos péchés. Nous sommes véritablement bénis chaque semaine de pouvoir faire le point sur notre vie, renouveler nos alliances et recevoir cette promesse faite par le Seigneur à travers l'ordonnance de la Sainte Cène. Parfois, des saints des derniers jours expriment le désir d'être baptisés à nouveau et ainsi redevenir aussi purs et dignes que le jour où ils ont reçu leur première ordonnance salvatrice de l'Évangile. Je suggère respectueusement que notre Père Céleste et son Fils bien-aimé n'aspirent pas à ce que nous ressentions ce sentiment de renouveau spirituel qui nous ressource et nous régénère une seule fois au cours de notre vie. Les bénédictions d'obtenir et de toujours conserver le pardon de nos péchés à travers les ordonnances de l'Évangile nous aident à comprendre que le baptême est un point de départ dans notre voyage spirituel de la mortalité et non une destination que nous devrions désirer ardemment revisiter encore et encore. Les ordonnances du baptême par immersion, de l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit et de la Sainte Cène ne sont pas des événements isolés et discrets, mais des éléments interdépendants et complémentaires dans un schéma de progression menant à la rédemption. Chaque ordonnance successive élève et élargit notre visée spirituelle, notre désir et nos accomplissements. Le plan du Père, l'expiation du Sauveur et les ordonnances de l'Évangile nous procurent la grâce nécessaire pour marcher résolument et progresser ligne sur ligne et précepte sur précepte vers notre destinée éternelle. Nous sommes des êtres humains parfaits qui s'efforcent de vivre durant cette existence mortelle, en accord avec le plan parfait de progression éternelle de notre Père Céleste. Les conditions de son plan sont glorieuses, miséricordieuses et rigoureuses. Nous pouvons parfois être remplis de détermination et à d'autres moments nous sentir totalement inaptes. Nous nous demandons peut-être si nous pourrons spirituellement jamais obéir au commandement de nous tenir sans tâche devant lui au dernier jour. Avec l'aide du Seigneur, et par le pouvoir de son Esprit qui nous enseignera toutes choses, nous pouvons effectivement avoir la bénédiction de réaliser notre potentiel spirituel. Les ordonnances apportent une visée et un pouvoir spirituel à notre vie, tandis que nous nous efforçons de naître de nouveau et de devenir des hommes et des femmes du Christ. Nos faiblesses peuvent être surmontées et nos limites dépassées. Bien qu'aucun de nous ne puisse atteindre la perfection dans cette vie, nous pouvons être de plus en plus dignes et exempts de tâches en étant purifiés par le sang de l'agneau. Je fais la promesse et témoigne que nous recevrons la bénédiction d'avoir une plus grande foi au Seigneur et une plus grande assurance spirituelle si nous nous efforçons de toujours conserver le pardon de nos péchés pour finalement nous tenir sans tâche devant le Seigneur au dernier jour. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Mormon Tabernacle Choir aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Russell Ballard du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « J'irai où tu veux ». La prière de clôture sera faite par Tad Callister, président général de l'École du Dimanche.
Mes frères et sœurs, le paradoxe du rôle de parent est que nous avons tendance à devenir bons une fois que nos enfants sont grands. Cet après-midi, je vais vous dire ce que je regrette de ne pas avoir mieux compris quand Barbara et moi avons commencé à élever nos enfants. Au cours de mon ministère apostolique, j'ai fréquemment souligné le pouvoir et l'importance des conseils de l'Église, notamment des conseils de mission, de pieux, de paroisse et d'auxiliaires. Je crois qu'ils sont la façon la plus efficace d'obtenir des résultats réels. De plus, je sais que les conseils sont la manière de faire du Seigneur et qu'il a créé toute chose dans l'univers au moyen d'un conseil céleste, comme l'indiquent les Saintes Écritures. Cependant, je n'ai jusqu'ici jamais parlé en conférence générale du conseil le plus essentiel et le plus fondamental et peut-être le plus important de tous les conseils, le conseil de famille. Les conseils de famille ont toujours été nécessaires. En fait, ils sont éternels. Nous appartenions à un conseil de famille dans l'existence prémortelle, quand nous vivions avec nos parents célestes, nous, leurs enfants d'esprit. S'il est dirigé avec amour et selon les vertus chrétiennes, un conseil de famille fera rempart à la technologie moderne qui nous empêche de passer du temps de qualité ensemble et qui a aussi tendance à introduire le mal dans notre foyer. Cependant, n'oubliez pas que les conseils de famille sont différents de la soirée familiale du lundi. Les soirées familiales portent principalement sur l'enseignement d'Évangile et sur les activités en famille. Les conseils de famille, eux, peuvent avoir lieu n'importe quel jour de la semaine et sont essentiellement une réunion dans laquelle les parents écoutent. Ils s'écoutent mutuellement et écoutent leurs enfants. Je crois qu'il existe au moins 4 types de conseils de famille. Premièrement, le conseil de famille général qui comprend toute la famille. Deuxièmement, le conseil exécutif de famille qui se compose du père et de la mère. Troisièmement, le conseil de famille restreint qui comprend les parents et un enfant. Quatrièmement, le conseil de famille en tête-à-tête qui comprend un parent et un enfant. Dans chacun de ces conseils de famille, les appareils électroniques doivent être éteints. afin que tous les participants puissent se regarder et s'écouter mutuellement. Pendant les conseils de famille, il y a d'autres moments appropriés. Vous pourriez avoir un panier réservé à ces appareils, afin que lorsque vous réunissez, chacun, y compris la mère et le père, puisse y déposer son téléphone, sa tablette, son lecteur MP3. À partir de ce moment, ils peuvent tenir conseil ensemble, sans que quelqu'un soit tenté de répondre à un poke Facebook, un message texte, des alertes Instagram, Snapchat ou des courriels. Je vais vous parler brièvement de la façon dont chacun de ces types de conseils de famille fonctionne. Premièrement, le conseil général de famille est composé de tous les membres de la famille. La brochure de l'Église intitulée « Notre famille » stipule que, je cite, « les membres de ce conseil peuvent se réunir dans le but de discuter des problèmes familiaux, de résoudre des questions financières, de faire des projets, de se soutenir et de se fortifier mutuellement et de prier les uns pour les autres et pour la cellule familiale. » Fin de citation. Ce conseil doit se tenir à des dates fixées à l'avance et normalement plus formelles que n'importe quel autre type de conseil de famille. Il doit commencer par une prière ou être simplement la suite naturelle de conversations qui ont déjà commencé dans un autre cadre. Notez qu'un conseil de famille peut ne pas toujours avoir un début ou une fin formelle. Quand les parents sont préparés et que les enfants écoutent et participent à la discussion, le conseil de famille fonctionne vraiment. Quelle que soit notre situation familiale, il est important que nous comprenions celle de chaque membre de la famille. Nous avons un ADN commun, mais certaines situations et circonstances peuvent entraîner de grandes différences entre les uns et les autres et peuvent nécessiter la collaboration compatissante du conseil de famille. Par exemple, il se peut que toutes les discussions et manifestations d'amour du monde n'arrivent pas à résoudre le problème médical ou émotionnel que peuvent avoir un ou plusieurs membres de la famille. Dans ces moments-là, le conseil de famille devient un lieu d'unité, de loyauté et de soutien aimant pendant qu'on fait appel à de l'aide extérieure pour rechercher des solutions. Les frères et sœurs, notamment les plus âgés, peuvent être des guides très influents pour les jeunes enfants. Si, lors du conseil de famille, les parents sollicitent leur aide et leur soutien dans les moments difficiles et contraignants. À cet égard, la famille ressemble beaucoup à une paroisse. Quand l'évêque implique les membres du conseil de paroisse, il peut résoudre des problèmes et accomplir beaucoup de bonnes choses qu'il n'aurait pas pu faire sans leur aide. De même, face aux problèmes et à l'adversité, les parents doivent impliquer tous les membres de la famille. Ainsi, le pouvoir du conseil de famille est mis en œuvre. Quand les membres du conseil sentent qu'ils font partie de la décision, ils deviennent des soutiens et il est possible d'obtenir des résultats positifs. Les conseils de famille ne sont pas tous composés de deux parents et d'enfants. Votre conseil de famille peut être très différent de ce qu'était le nôtre quand nous élevions nos 7 enfants. Aujourd'hui, il n'y a d'autre conseil de famille que Barbara et moi, sauf lorsque nous tenons un conseil étendu auquel participent nos enfants adultes, leurs conjoints et parfois nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Alors ça devient un grand conseil. Les personnes célibataires et même les étudiants qui vivent loin de chez eux peuvent suivre le modèle divin des conseils en se réunissant avec leurs amis et colocataires. Imaginez à quel point l'atmosphère d'un appartement pourrait changer si les colocataires se réunissaient régulièrement pour prier, écouter, discuter, planifier ensemble. Chacun peut adapter la forme d'un conseil de famille afin de profiter de ce modèle divin établi par notre Père Céleste aimant. Comme je l'ai indiqué précédemment, il peut être utile de temps en temps de tenir un conseil de famille étendu. Celui-ci peut être composé des grands-parents et des enfants adultes qui ne vivent plus à la maison. Même si les grands-parents ou les enfants adultes vivent loin, ils peuvent participer au conseil de famille par téléphone, Skype ou FaceTime. Vous pourriez songer à tenir un conseil général de famille le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Les familles peuvent y évoquer la semaine écoulée et planifier celle à venir. C'est peut-être exactement ce dont votre famille a besoin pour faire du sabbat une expérience délectable. Le deuxième type de conseil de famille est le conseil exécutif de famille, qui ne concerne que les parents. Pendant ce moment qu'ils passent ensemble, les parents peuvent analyser les besoins physiques, émotionnels et spirituels, ainsi que la progression de chacun de leurs enfants. C'est aussi un bon moment pour que les conjoints parlent de leurs relations. Quand Harold Bailey a accompli notre scellement, il nous a enseigné un principe que tous les couples, je crois, trouveront utile. Il nous a dit, « Ne vous couchez jamais sans vous être agenouillés ensemble, vous tenant la main pour prier. Ces prières invitent notre Père Céleste à nous conseiller par le pouvoir de l'Esprit. » Le troisième type de conseil de famille est le conseil de famille restreint. Ici, les parents passent du temps avec un seul enfant dans un cadre formel ou informel. C'est l'occasion de discuter des décisions à prendre à l'avance, par exemple concernant ce que l'enfant fera ou ne fera pas plus tard. Une fois les décisions prises, on peut les noter pour s'y référer ultérieurement, si nécessaire. Si votre fils ou votre fille voit en vous un soutien indéfectible, cette réunion de conseil peut affermir les soucis et les problèmes. C'est aussi un moment pour écouter attentivement les soucis et les problèmes qu'un enfant peut avoir. Par exemple, le manque de confiance, les insultes, le harcèlement ou la peur. Le quatrième type de conseil de famille est le conseil de famille en tête-à-tête, impliquant un parent et un enfant. Ce type de conseil de famille est généralement spontané. Par exemple, le parent et l'enfant peuvent profiter d'une occasion informelle, comme un voyage en voiture ou des travaux dans la maison. Une sortie d'un enfant avec son père ou sa mère peut être un moment de choix pour établir des liens spirituels et émotionnels. Prévoyez-les à l'avance afin que les enfants puissent anticiper et attendre avec impatience ce moment spécial où ils seront seuls avec leur mère ou leur père. Frères et sœurs, il fut un temps où les murs de notre maison fournissaient toutes les défenses dont nous avions besoin contre les intrusions et les influences extérieures. Nous verrouillons les portes, fermions les fenêtres et le portail et nous sentions en sécurité, à l'abri et protégés dans notre petit refuge contre le monde du dehors. Ces temps sont dorénavant révolus. Les murs, les portes, les barrières et les portails physiques de nos foyers ne peuvent empêcher l'invasion invisible de l'Internet, du Wi-Fi et des réseaux de téléphonie mobile. Ils peuvent pénétrer dans nos foyers par de simples clics et touches de clavier. Heureusement, le Seigneur a fourni un moyen pour contrer le déferlement de technologies négatives qui peut nous empêcher de passer du temps de qualité ensemble. Il l'a fait en nous donnant le système des conseils pour fortifier, protéger, sauvegarder et nourrir nos relations les plus précieuses. Les enfants ont désespérément besoin de parents disposés à les écouter, et le conseil de famille peut être l'occasion pour les membres de la famille d'apprendre à se comprendre et à s'aimer les uns les autres. Alma a enseigné, « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Nos relations mutuelles s'amélioreront si nous invitons le Seigneur, par la prière, à participer à notre conseil de famille. Avec l'aide de notre Père Céleste et notre Sauveur, nous pourrons devenir plus patients, plus attentionnés, plus serviables, plus indulgents et plus compréhensifs si nous prions pour cela. Avec leur aide, Nous pouvons faire de notre foyer un coin du ciel sur la terre. Un conseil de famille qui suit le modèle des conseils célestes, qui est rempli d'amour chrétien et qui est guidé par l'Esprit du Seigneur, nous aidera à protéger notre famille des distractions qui peuvent nous voler notre temps précieux ensemble et nous protégera des maux du monde. Associé à la prière, le conseil de famille invitera le Sauveur à y être présent, comme il l'a lui-même promis. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Inviter l'Esprit du Seigneur à faire partie de nos conseils de famille apporte des bénédictions indescriptibles. Pour finir, souvenez-vous que la tenue régulière d'un conseil de famille nous aidera à détecter de bonne heure les problèmes familiaux et à les tuer dans l'œuf. Ils donneront à chaque membre de la famille le sentiment de sa valeur et de son importance. Et par-dessus tout, ils nous aideront à avoir plus de réussite et de bonheur dans nos relations précieuses au sein de notre foyer. Puisse notre Père Céleste bénir nos familles lorsque nous tenons conseil ensemble. C'est là mon humble prière au nom de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Amen.
Save us beyond the mountains.
Notre Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour ce déversement de l'esprit que nous avons ressenti, ces vérités doctrinales que nous avons entendues. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui ont été soutenus et nous consacrons notre cœur, notre esprit pour leur œuvre. Nous sommes reconnaissants pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ et qui donne tant de sens et d'objectifs dans nos deux vies. Et nous te remercions pour l'Esprit. Nous prions que nous puissions individuellement et ensemble avoir la foi en Jésus-Christ, cette foi qui nous délivre, et que nous ayons l'humilité qui nous permette de soumettre notre volonté à la tienne, que ces choses puissent nous aider à être des époux plus consciencieux, à être des parents avec plus l'esprit de discernement, que nous puissions être des disciples plus dévoués en ton Fils Jésus-Christ. En son nom. Amen.
Vous
venez d'assister à une session de la 186e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur composé d'étudiants de l'Université BYU Idaho. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.